Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8 heures sur la radio Parana 200, même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. Monsieur Dan, bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. Les épreuves du diplôme d'études fondamentales DF ont pris fin le mercredi dernier. De Bamako et à l'intérieur du pays, aucun incident majeur n'a été signalé selon les autorités scolaires. Le centre Carter alerte sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Dans un rapport publié cette semaine, l'observateur indépendant relève que le dialogue est de plus en plus difficile entre les signataires. Les logements sociaux du cercle de Tominian se sont transformés en refuge pour les bandits, déplorent des sources locales. Les faits de ne pas être habités, ces maisons se dégradent également de jour en jour. Qu'est-ce qui explique cette situation? La réponse dans ce journal. À la présentation, Mariam Maïga, la mise en onde est assurée par Nohum Djiri. Les épreuves du diplôme d'études fondamentales DF ont pris fin le mercredi dernier sur l'ensemble du territoire ainsi que dans le camp de réfugiés de Mbera en Mauritanie. Du nord au sud, en passant par le centre du pays, ces épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions et sans incident selon les responsables des différents centres d'animation pédagogique de ces localités. Le point avec Ali Sissi.
À Tombouctou, les épreuves du DF se sont bien déroulées selon Mahamadou Pleya, directeur du centre d'animation pédagogique du cercle. Pour lui, les candidats inscrits pour cet examen ont pu composer dans des conditions acceptables et sans problème.
Nous avons fait composer nos candidats dans 14 centres, 13 centres classiques et un centre arabe. Les 11 centres se trouvent dans la ville de Tombouctou et 3 centres à l'intérieur de Tombouctou dans les communes de Alafia, Lafia et Bouraminali. Et je peux vous affirmer que le DEF s'est bien déroulé sans aucun incident. Partout, ça a été organisé dans les conditions les plus souhaitables.
Même son de cloche du côté du responsable du centre d'animation pédagogique de Ségou. Selon Drissa Traoré, il n'y a pas eu d'incident lors de ces épreuves.
Les examens ont démarré dans les bonnes conditions. Il n'y a pas eu de difficultés. Puisque les candidats sont venus très très nombreux pour le cas de Ségou, il n'y a pas eu d'incident et il n'y a pas eu de difficulté. Tout s'est passé normalement comme prévu. À Ségou, il n'y a pas eu de fraude et il n'y a pas eu également de fuite de sujet. Cette année est une année exceptionnelle.
À Banamba, dans la région de Koulikoro, un vent d'inquiétude régnait dans le cercle les jours qui ont précédé le début des épreuves. Alassane Maïga, directeur du centre d'animation pédagogique du cercle, craignait une attaque djihadiste.
C'était un bon planning et ça a été bien exécuté. Il n'y a pas eu de problème majeur. On craignait pour Okiba. La semaine d'avant, il y a eu des mouvements de djihadistes dans la zone, mais avec l'intervention du gouverneur, on a eu des renforts. Donc je peux dire que c'est une bonne organisation cette année. Le sujet était sur le programme condensé. Cette année, on a presque écoulé le programme, il n'y a pas eu de problème.
Notez qu'ils étaient plus de 234 000 candidats inscrits à l'examen du DEF session 2021-2022.
Réagissez à toutes ces informations sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Autre titre de l'actualité du jour, le centre Carter a rendu public lundi dernier un nouveau rapport sur le blocage dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Le document indique entre autres que le dialogue est de plus en plus difficile entre les signataires et qu'aucun progrès significatif n'a été réalisé dans son application. C'est dans ce cadre que les responsables de cet observatoire indépendant pour la mise en œuvre de l'accord au Mali ont rencontré hier les hommes de médias. Ntolé Jean Kazadi, conseiller spécial adjoint au centre Carter, est au micro de Mamadou Samasekou.
Il est dit qu'il y a un fonds FDD, de développement durable, qui devait être mis en place dans le cadre de l'accord et qui doit servir à financer des projets dans les régions. Au début, c'était seulement région du Nord. Ça, c'est encore ça, l'intelligence des partis. Ils ont convenu que ce fonds doit financer des projets de développement dans toutes les régions. Mais le seul problème, c'est lequel? À ce jour, depuis 2018, l'État a déjà dans ses caisses quelques 67 milliards disponibles. Et des projets ont été sélectionnés depuis la fin de 2020 ou début 2021. Mais le problème, c'est qu'aucun de ces projets n'a été lancé jusqu'aujourd'hui. Que les partis aillent de l'avant. Les habitants de la région de Benaka, de la région de Kidal, ceux de la région de Kaï, qui vont voir qu'il y a des projets qu'on développe dans leur région, à partir de ce qui est préconisé par l'accord, croiront davantage.
Comme vous le savez, ce mercredi 29 juin, le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé le mandat de la MINUSMA. Le gouvernement du Mali dit regretter le fait que certaines de ses réserves fortes ont été ignorées. Les autorités de la transition avaient auparavant demandé de revoir le mandat de la mission onusienne pour mieux protéger les populations civiles. Le point avec Dramane Maïga.
Dans ce nouveau mandat, la MINUSMA n'aura plus l'appui aérien des forces françaises. En revanche, elle a quitus de mener des enquête sur des cas de violation des droits de l'homme. Cependant, pour le gouvernement du Mali, cette reconduction de mandat n'a pas pris en compte certaines de ses préoccupations importantes. Dans une déclaration, le représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies exprime les regrets du gouvernement. Le Mali réitère son opposition ferme à la liberté de mouvement de la MINUSMA dans l'exécution de son mandat. Dans le domaine des droits de l'homme, poursuit les documents. Issa Konfourou, représentant permanent du Mali auprès de l'ONU, précise que le Mali ne sera pas en mesure de garantir la liberté des mouvements de la MINUSMA sur son territoire. Pour les autorités maliennes, le Conseil de sécurité doit plutôt permettre à la MINUSMA de se consacrer à l'appui pour la restauration de la sécurité et l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Rappelons que le ministre des Affaires étrangères, dans son exposé devant ce Conseil le 13 juin à New York, avait demandé à ce que la nature de la MINUSMA soit adaptée pour mieux protéger les populations.
Allons dans la région de Sang où les logements sociaux du cercle de Tominien sont toujours inhabités. Selon des constats, ces maisons se dégradent de jour en jour et sont devenues également des refuges pour les bandits. Pourquoi ces maisons ne sont pas attribuées? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant ici à Kakoulibaly.
Les logements sociaux de Tominien font partie du programme de 2016 qui concerne la construction de 20 logements sociaux dans certaines localités dont figure le cercle de Tominien dans la région de Sang. Si certains pensent que ces logements sociaux sont en état de dégradation avancée, d'autres estiment qu'ils sont un lieu de refuge pour des personnes mal intentionnées.
Ces logements sociaux inhabités, ça n'apporte absolument rien. Les bâtiments sont même déjà en phase de destruction. Ça peut abriter d'autres malfrats aussi.
Les logements sociaux, moi je ne connais même pas à qui on doit s'intéresser pour avoir droit. Ça fait longtemps que les maisons sont là. Il faudrait qu'on trouve un moyen pour les réhabiliter, mettre les gens là-dedans. Sinon c'est une perte pour l'État.
Ces logements sociaux ont été construits, mais il n'y a pas une lettre d'attribution. Nous sollicitons de venir réhabiliter ces logements sociaux en état délabré.
Monsieur Sidi Barayogo, chef de service de l'urbanisme et de l'habitat du cercle de Tominien, nous donne les raisons de non-attribution de ces logements sociaux.
Les logements sociaux sont gérés par le service de l'urbanisme et de l'habitat, mais en même temps gérés par l'office malien de l'habitat. Pour le moment, ils sont en phase de l'exécution. C'est pour cela qu'ils sont à la disposition de l'urbanisme et de l'habitat. Les logements sociaux de Tominien sont de type F3, y compris la toilette. Pour le moment, c'est pas attribué. On est en phase de visibilisation. C'est pas sécurisé. Le fait que c'est pas fini, on va mettre en place une commission pour l'attribution.
La population de Tominien lance un cri de cœur aux autorités compétentes afin que ces logements sociaux puissent être fonctionnels. Issiaka Koulibaly depuis Tominien pour Studio Tamani.
De la région de Sang, Cap sur Sikasso, où la région est connue pour la culture du pois sucré. Le produit est transformé en farine, huile et surtout en jus qui est de plus en plus consommé dans le pays. Pour des consommateurs, le jus de pois sucré est très nutritif et est une alternative au lait de vache et soja. Selon des témoignages, sa fabrication demande beaucoup d'efforts. Christian Dako, notre correspondant à Sikasso, nous en parle.
Pour faire le jus de pois sucré, il faut beaucoup de précautions. Vanner, laver, piler, bref, le processus de fabrication du jus de pois sucré demande de la patience. Madame Diabaté Korotoum Sangaré, fabricante et vendeuse de jus locaux à Sikasso.
Si j'achète 2 kilos de pois sucré, je mets mon pois sucré dans l'eau. 1 heure à 2 heures après, je lave le pois sucré. Je vais aller à la machine pour le rendre en pâte. Après ça, je mets 4 litres d'eau. Je les tamise. Après ça, je mets 1 demi-kilo de sucre, un peu de sel et puis de sucre vanillé.
Le jus de pois sucré est très prisé à Sikasso. Certains le consomment même pour ses vertus thérapeutiques.
Le jus de pois sucré, je l'ai goûté. C'est délicieux.
C'est bon pour la santé. C'est très bon aussi. Je l'apprécie.
J'aime les pois sucrés même. Donc quand on fait ça en jus, c'est facile à consommer que de croquer ça.
Au Mali, il n'existe pas encore de politique pour la promotion du pois sucré. La transformation reste donc une des voies pour donner de la valeur ajoutée au pois sucré. De Sikasso, Christian Dako pour studio Tamani.
Le pays vit actuellement au rythme de la fête de Tabaski à moins d'une dizaine de jours. Les couturiers regrettent que les clients n'amènent pas à temps leurs habits. Une situation qui peut être source de désagréments entre eux et la clientèle. Dans des ateliers de couture, certains ont arrêté de prendre des habits. Notre reporter Fatmata Koudjo a fait le tour de certains ateliers. Écoutons.
L'affluence est timide dans les ateliers de couture à l'approche de la fête des Tabaski. Nous avons dû arrêter à temps de prendre les habits. C'est ce qui explique ces manques d'affluence, soulignent certains tailleurs.
En cas de coupure d'électricité, je ne pourrais pas finir les habits à temps. C'est ce que les clients ne comprennent pas.
Les gens apportent toujours des vêtements, mais on refuse de les prendre.
L'affluence est timide, la vie est chère. Tout le monde priorise le mouton.
On essaie de finir avec les habits de nos clients. Pour les autres, c'est une question de chance.
Que ce soit la fête ou pas, mon activité reste la même. Généralement, si tu coupes les habits pour la fête, il faut s'attendre à des désagréments venant des clients.
Des clients déplorent la conjoncture économique. Selon eux, il est important de se préparer très tôt avant que les tailleurs ne soient débordés.
Pour cette fête, j'ai cousu mes habits à l'avance. Maintenant, c'est le prix de la couture qui est cher.
Je suis allé chez le premier, il a refusé, mais le second a accepté. Il a promis que je l'aurai la semaine prochaine.
Il y a d'autres qui respectent les rendez-vous. Quand il ne reste qu'une semaine ou deux de la fête, certains apportent leurs habits. Ces gens-là dérangent les tailleurs.
Cependant, des tailleurs à la retraite demandent à la nouvelle génération de tailleurs une bonne organisation dans leur travail.
Un sujet signé Fatoumata Koudjo. Le dossier culture du jour s'intéresse au Djandigui, une danse typique chez les Bambara. Elle est dansée durant beaucoup d'occasions. Plongeons-nous dans l'univers du Djandigui avec notre envoyé spécial à Markala, Hamsette Touré.
Comme le Bara ou le Djondon, le Djandigui est une danse populaire chez les Bambara. Elle est jouée durant les grands événements, que ce soit lors des mariages ou d'autres réjouissances, explique Fatoumata Doumbia, chanteuse.
Auparavant, quand les vieilles femmes étaient contentes, elles se réunissaient et en uniforme dansaient le Djandigui. C'était pour elles une façon de se réjouir. Même chose lors des mariages ou autres événements heureux. C'était la même chose quand les travaux champêtres finissaient aussi. Le Djandigui se fait dans tous les villages Bambara, mais c'est la manière qui peut différer, souvent à cause de l'instrument utilisé.
Elle se danse généralement avec des instruments traditionnels, poursuit la chanteuse.
Tout le monde la danse, il n'y a pas d'exception. Elle se fait avec les tambours Bambara. Elle peut se faire avec une calebasse sur un pagne qu'on appelle djita, ou encore une calebasse dans l'eau qu'on appelle djidounou.
Rappelons que le village de Thio, dans la région de Ségou, est très réputé pour cette danse. De Markalam, c'est tout touré pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, le tour d'horizon de l'actualité régionale à Samé Plantation dans le cercle de Kaï. Six jeunes formés en entrepreneuriat agricole ont bénéficié mercredi dernier de matériels agricoles. Cette action est initiée par l'ONG Sasakawa Africa Association. Les bénéficiaires ont salué le geste. Allons à Bourem où les cambriolages ont repris dans la ville cette semaine. Des portes, des boutiques ont été défoncées, des chantiers de famille cambriolés, des téléphones, ordinateurs, ventilateurs et de l'argent emporté. Des sources sécuritaires rapportent que trois jeunes âgés entre 15 et 18 ans ont été appréhendés. Ils méditent sur leur sort à la gendarmerie. Les mêmes sources indiquent que les enquêtes sont en cours pour retrouver les autres délinquants. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site internet au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamu au 37 321. C'était la présentation. Mariam Maïga, nous vous direz à assurer la technique. Ne décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez la version en Bambara avec Aissata Diarra. D'ici là, excellent début de week-end à toutes et à tous. Plus Plus d'un milliard d'enfants n'ont pas eu la chance d'être scolarisés en 2020 à travers le monde. C'est en raison des fermetures des écoles suite au conflit et à la pandémie de COVID-19. Cette information est tirée du rapport général du Partenariat mondial pour l'éducation. Face à cette problématique, le consortium composé de la Fondation Karanta, Fawe et Rokar Mali a organisé hier un atelier de restitution sur le rapport provisoire de recherche sur le nouveau modèle de classe pour les enfants et les jeunes non scolarisés cas du Mali. Le magazine Tous les enfants du Mali s'intéresse à cette question et est présenté par Aïssata Diarra.
Tous les enfants du Mali, le magazine des enfants.
Restituer les résultats des recherches aux acteurs éducatifs conduites au Mali du 4 janvier au 18 janvier 2022, c'était l'objectif de cette rencontre du consortium. Le projet vise à mettre en place un nouveau modèle de classe passerelle pour améliorer l'apprentissage des enfants et des jeunes non scolarisés dans les 6 pays membres de la Fondation Karanta en Afrique occidentale. Les enfants âgés de 8 à 15 ans seront les concernés. Nahum Sidibé est le coordinateur national du réseau Ouest et Centre africain des recherches en éducation Rokar Mali. Il est au micro de Lale Tangara.
Cet appel à proposition consistait à former des équipes pour élaborer des projets qui vont générer et améliorer des connaissances innovantes pour relever les défis régionaux de l'éducation. Dans les 6 pays, il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants non scolarisés et il y a aussi des enfants déscolarisés pour de multiples causes. Nous avons décidé de prendre comme cible les enfants non scolarisés et les enfants déscolarisés. On va chercher les programmes d'éducation qui sont dédiés à ces enfants et on va travailler sur ces programmes.
D'autres nouvelles avec Lale Tangara.
À Bourem, les épreuves du DIEF 2022 se sont déroulées sans incident. Près de 500 candidats réguliers et candidats libres en classique et arabe, dont 49,17% de filles, ont composé dans les 6 centres. Selon le DECAP, tout s'est bien passé dans le respect des consignes. Il a précisé qu'il n'y a eu ni fraude, ni fuite de sujet et les FAMA ont joué leur rôle de sécurisation dans les lieux.
À Kaya, 9 élèves ont reçu des fournitures scolaires et des attestations de mérite après le concours d'excellence en milieu scolaire. La cérémonie des remises a eu lieu le dimanche dernier à Kaya. Il s'agissait pour les organisateurs de motiver les élèves à travailler à l'école et à cultiver l'excellence. L'activité a été organisée par le club JCI de Kaya. Fin de ce magazine Tous les enfants du Mali, à la semaine prochaine pour d'autres informations.
C'était le magazine Tous les enfants du Mali.